Hop, je vais prendre le plat du jour.
On envoie la bohémienne pour la 14, bien chaude. On y va.
Allez, on envoie la tarte au citron à la 5, les gars, s'il vous plaît.
Europe 1.
Moi, je vais prendre la brioche perdue.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour les amis, du panier à l'assiette en passant par les arrières-cuisines de notre alimentation, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Installez-vous, vous êtes ici chez vous. La fleur de sel de Camargue, un débat autour des vins nature et une invitée aussi bonne cuisinière que chanteuse et romancière. Voilà un aperçu du programme. Voici les bons vivants du jour, je ne suis pas tout seul bien entendu. La cuisine est un sport d'équipe, voilà pourquoi il vient de lancer le 15 de France de la gastronomie. C'est Yves Candebordes, bonjour Yves.
Bonjour, bonjour Olivier, bonjour Laurent et vive le rugby quand même.
C'est vrai,
vive 2023.
Le 15 de la gastronomie.
Ouais, c'est pour représenter la France durant la Coupe du Monde de rugby en France. On va essayer d'apporter notre, je dirais, un coup de main, voilà, pour que les stades soient bien, bien chéris et soient gourmands.
Et un joli coup de fourchette. Entre les foires au vin et les dégustations chez les cavistes, il ne sait plus où donner du goulot. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour capitaine Yves alors.
Merci
vous
Olivier.
Vous avez besoin d'un petit coup de main éventuellement, on peut aider. Hein.
Marion Sauveur nous rejoint dans un instant avec vos questions, chers auditeurs. Olivia Ruiz donc sera des nôtres vers midi moins 10 autour d'un plat d'été que vous pourrez refaire ce week-end. Une belle bohémienne de légumes. Allez en route, joyeuse troupe. Les vacances sont finies, mais l'été est bel et bien toujours là. Alors les aubergines aussi sont là, les courgettes, les tomates, les pêches, tous ces fruits, les poivrons, voilà, c'est l'été sur les étals. Quel est votre goût de la semaine? Alors tiens, posez-vous la question en voiture ou à la maison. On va commencer par vous, tiens Olivier Pouls, votre goût de la semaine.
Eh bien moi, c'est 60 goûts, 60 recettes pour un livre que je trouve particulièrement bien vu, qui s'appelle « À la maison ». C'est 60 recettes de 60 chefs, dont Pierre Gagnaire, dont Anne-Sophie Pic, dont le célébrissime Yves Candebordes. Ce sont des petites recettes très faciles de ce que les chefs font chez eux et non pas dans leur restaurant. Et puis surtout, 100% des bénéfices retirés par ce livre vont à l'association Ernest qui livre des paniers de légumes bio et de saison à des familles dans le besoin. Pour se le procurer à la maison, lelivre.com. Il coûte 24,90 € et on se régale.
Voilà une belle action. Votre goût de la semaine, Yves?
Eh bien, c'est une belle action aussi. C'est une opération, c'est une vente aux enchères qui va avoir lieu, qui a lieu d'ailleurs du 10 septembre au 13 septembre pour venir en aide à toutes les victimes de cette catastrophe qui a eu à Beyrouth le 4 août au Liban. Là, ils ont pris 100 personnalités de la gastronomie mondiale et ils vont mettre aux enchères 30 minutes en ligne, 30 minutes de conversation intime avec ces personnalités. Et les bénéfices seront versés à 100% pour les victimes de cette catastrophe.
Et ce sera où ça?
Alors c'est Ask Chef Anything Beyrouth.
Yeah,
c'est pas un bel accent.
Mais si, puis on mettra les références sur europe1.fr. Moi j'ai bien compris comme ça avec cet accent là.
Moi voilà. Je veux bien acheter les 30 minutes avec Yves Candebordes.
Mais oui, voilà, mais c'est bien. Effectivement, la cuisine c'est ça. Ça sert à rassembler et ça sert aussi à faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Mon goût de la semaine, moi, ce sont des beignets de tomates que j'ai fait cette semaine en tournage. Pour tout vous dire, j'ai repris les tournages de mes émissions et j'ai découvert ça en Grèce, les beignets de tomates qui sont faits avec des tomates cerises. J'ai découvert ça à Santorin, qui était l'île vraiment de la tomate cerise. Il y avait des conserveries de tomates cerises pendant de nombreuses années. Et c'est des petites tomates cerises que vous coupez en morceaux, vous les faites dégorger avec du sel, vous mettez de la farine, plein d'herbes, des oignons, pas d'œufs. Vous avez une espèce de pâte comme ça avec la farine qui va être absorbée par la pulpe de la tomate et vous mettez ça dans un bain de friture. Ce sont des beignets de tomates, c'est à tomber, ça change de la salade de tomate, de la tarte fine à la tomate qu'on peut faire en ce moment. Voilà.
Ouais, je suis preneur.
Beignets de tomates.
Ouais, je suis preneur aussi.
Allez, tous à nos paniers, les amis. Marion Sauveur nous emmène faire les courses à Rambouillet dans les Yvelines, dans un magasin dédié au vrac. De l'huile aux pâtes, en passant par les yaourts, tout s'achète en vrac. Hein. Alors qu'est-ce qui vous plaît, chers auditeurs, dans le vrac? La réponse au micro de Marion.
Bonjour, vous allez bien? Depuis très peu de temps, je me mets au vrac. Moi, ma motivation, c'est une alimentation saine pour mes enfants.
Tout est local, il n'y a pas d'emballage, donc je viens avec mes sacs.
C'est souvent économique.
J'achète des carottes, des concombres, de l'huile d'olive. Je viens avec ma bouteille, puis je la remplis, puis après on la pèse, et puis je paye.
J'achète ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Donc vous n'avez rien de perdu.
Aujourd'hui, nous avons acheté des plaques de chocolat, des fruits séchés comme des bananes, des mangues sauvages. Et on a acheté des pâtes locales aussi, ail et persil.
Je me sens mieux avec moi-même. Enfin, je suis professeur, donc du coup, je me dis ce que je laisse aux futures générations, ce ne sera pas un monde avec plein de déchets, avec plein de pesticides. Il faut faire sa part.
C'est une nouvelle habitude, mais qui me plaît bien.
Ah, il n'y a pas de doute. Le vrac, ça, c'est vrai que ça permet vraiment de réduire les déchets. Je vous donne un chiffre, tiens, hein, comme ça. 568 kilos de déchets par an et par habitant. Ah, c'est ce qu'on jette.
Énorme. Hein,
avec les emballages, je parle de tout, hein, bien entendu. Les emballages ménagers et puis les emballages de tout ce qu'on peut acheter en plus. Donc, c'est vrai que c'est énorme. Et je trouve que le vrac aussi permet de choisir la juste quantité quand ce sont des fruits secs, par exemple. Moi, j'achète les fruits secs en vrac. Vous achetez quoi en vrac? Vous achetez
L'alimentation, j'achète tout en vrac parce que c'est vrai que je viens d'un monde paysan où le recyclage était naturel. Voilà, c'était dans les années 70, donc on recyclait tout, recyclait la boîte à œufs, le sachet de farine, on le réutilise en permanence.
Olivier.
Alors, oui, parce que ce qui est très sympa, c'est que moi j'ai acheté des très jolis bocaux en verre transparent qui décorent la cuisine, et en fait on les remplit du riz avec les pâtes, avec la farine, etc. Donc on n'a pas besoin de l'emballage, moi l'emballage du riz ou de la farine, il ne m'intéresse pas. Et en plus c'est décoratif, c'est joli dans la cuisine.
C'est plus joli effectivement qu'un paquet avec plein de couleurs. Et puis le vin se fait en vrac aussi grâce aux cubis maintenant qu'on progressait. Hein.
Et les cubis aujourd'hui sont techniquement très au point, mais on n'en prend pas la quantité qu'on veut. Et les cubis, c'est 3 litres en général, 3 ou 5 litres. Mais là, pour le coup, le vin en vrac tel qu'on l'a connu, ça a un peu disparu.
Le sel, voilà un ingrédient que vous trouverez dans les épiceries dédiées au vrac. Eh bien, on vous emmène en Camargue dans un instant récolter la fleur de sel, juste après ça. Allez, à tout de suite au Pays des Flamants Roses.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
On a tendance à en mettre un petit peu trop, mais bien dosé, c'est-à-dire 5 grammes par jour. Le sel donne de la saveur à nos assiettes. Alors direction la Camargue, hein, c'est le pays des flamants roses, pour ramasser la fleur de sel. La récolte, elle a débuté mi-août. Elle continue de battre son plein encore jusqu'à aller la semaine prochaine, on va dire. Et c'est vrai que son petit goût salé et puis son croquant, eh bien cette fleur de sel, elle nous accueille depuis un petit moment, Olivier. Hein.
Elle est même très tendance, mais en fait, la fleur de sel, c'est un produit relativement récent. Le sel, évidemment, non, hein, depuis l'Antiquité. Mais la fleur de sel, eh bien, c'est les années 80. Parce qu'avant, on n'en trouvait pas. Et puis, les sauniers, en fait, se la réservaient pour eux. Ils ne la commercialisaient pas. Et c'est parti apparemment de Noirmoutier, où petit à petit, on a commencé à valoriser ce produit au-delà de ce qu'est le simple sel, le moins valorisé.
Il y a un bel écomusée où on peut visiter ça, à Noirmoutier, sur l'île, justement. Il y a 4 grandes zones salines, on va dire, en France, Yves.
Oui, il y a la Bonne Vendée, donc Noirmoutier. Il y a l'île de Ré, dans les Charentes-Maritimes. Il y a la Camargue et il y a quand même l'excellence du sel qui est en Béarn.
Ah,
voilà,
je
c'est le
cas
de dire à Salis de Béarn. Mais c'est un sel très particulier parce que c'est un sel, j'ai envie de vous dire, parce que de montagne, il est sous la chaîne des Pyrénées.
Souterrain, oui.
Souterrain. Et alors, ça, si vous avez l'occasion de passer à Salis de Béarn, allez visiter le musée du sel. Il y a encore la crypte où on ramassait le sel à l'époque qui est conservé à l'état naturel. C'est très intéressant. Et pour finir, Laurent, c'est un sel qui est vraiment très salé et qui est remarquable pour les salaisons.
En plus, oui.
Et d'ailleurs, c'est dans le
cahier des charges
du jambon de Bayonne.
Exact.
Il est exclusivement salé au sel béarnais.
Ah, il a casé hein, son Béarn, encore une fois, il est fort. Allez, chaussez vos bottes, chers auditeurs. Julien Amat a trempé le micro dans les salins d'Aigues-Mortes en Camargue. Rencontre avec Alain Barthelot, qui est saunier en chef, et puis surtout, qui est un véritable gardien de la biodiversité. Écoutez.
On est des agriculteurs, si on peut dire, de la mer. Tous les matins, on a une équipe de sauniers qui récolte la fleur de sel. Allez-y, hein, si vous voulez la goûter, vous voyez bien que ces petites paillettes viennent se déposer en bordure de l'étang. On la bouge un peu, regardez. Mmh. Hop, ça fait des petites paillettes. Pas du tout la même cristallisation que le sel traditionnel, qui est une cristallisation cubique. Le sel, quand on découvre la table salante, le sel est légèrement rose. Eh bien, c'est dû à la concentration de l'eau. Et on a une algue qui s'appelle la Dunaniella, qui est à base de bêta-carotène, et d'où vient l'eau rose et cette algue. C'est la nourriture d'une petite crevette qui s'appelle l'Artemia salina, qui elle-même nourrit les flamants, d'où viennent les flamants roses. D'ailleurs, chaque année, on a une compagnie de flamants roses, environ 10-12 000 par an, qui viennent pondre sur le salin d'Aigues-Mortes. En termes de biologie, il n'y a aucun traitement, parce qu'il est récolté et conditionné sans avoir aucun traitement, directement sorti de la table pour être mis sur la table.
Il en parle bien, merci Alain Barthelot. Alors on l'a devant nous, tiens, cette fleur de sel. Alors Alain le disait, elle est pailletée à la récolte, elle sèche, elle devient plus sableuse, on en a là de gros grains une fois égouttés. Et puis c'est vrai, c'est joli, légèrement rosé quoi. Alors on a une belle tartine, tiens.
On la goûte sur du beurre, non salé bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que Cette fleur de sel, elle a une vraie subtilité.
Et puis il y a de la profondeur. Hein. Il y a de la longueur en bouche, comme vous dites, chef Condeborne.
Il y a de la longueur en bouche.
Et de la texture.
Une texture, mais une texture qui est... Voilà, souvent, des fois, le sel, c'est un peu caillouteux. Tandis que là, une texture presque de flocon. Mais moi, ce que j'adore avec le sel, Laurent, et ça, je vais vous faire plaisir, la fleur de sel, la plus belle des recettes, c'est une belle tranche de tomate.
Ah,
un trait d'huile d'olive,
c'est vrai.
Et que de la fleur de sel.
C'est ça, un beau steak végétal comme ça, avec voilà. Le croquant, parce qu'elle apporte ce croquant aussi, la fleur de sel. Hein.
Elle apporte ce croquant, elle apporte le liant, et elle apporte aussi beaucoup de douceur.
Et petite précision, c'est le choc de température, les nuits froides et les jours chauds, qui permet cette cristallisation du sel particulière. Et je trouve, les gars, que dans cette conversation, il manque une fille pour apporter son grain de sel. Eh bien, la voici, c'est Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Ça va Marion?
Très bien.
Vous en croquez aussi pour la fleur de sel?
J'adore, hein, oui, bien sûr.
Alors vous avez recueilli pas mal de questions de nos chers auditeurs sur le groupe Facebook des Bons Vivants, sur le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Donc on vous écoute, qu'est-ce qu'on a de beau en question?
On a eu des questions autour de l'assaisonnement cette semaine et notamment sur notre répondeur, comme l'une de nos auditrices qui nous a laissé un message.
J'aimerais avoir un tuyau. Comment peut-on faire ces bouillons cubes soi-même sans qu'ils soient bourrés d'additifs, de trucs pas bons pour la santé, etc. Merci beaucoup et bon appétit.
Eh ben bon appétit, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que mais j'ai envie de dire, quelle drôle de question, parce que c'est du boulot quand même, ces techniques. On en trouve des sans additifs qui sont bio aujourd'hui, au passage, hein, des bouillons de légumes et autres exhausteurs de goût.
Oui, oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir sur le marché maintenant une marque, je peux la citer, c'est Ariake, qui fait vraiment des choses très, très bien. Moi, je vois,
c'est des sachets, c'est à infuser, voilà, ça, pour le coup.
Il y a, des sachets, ouais. Et on trouve aussi des jus de viande aussi. Qui sont réduits, mais pas à l'état de cube.
Jus de veau.
Mais qui sont vraiment, honnêtement, moi je les utilise à la maison, dans mon cercle
très bien,
personnel,
ouais.
C'est vraiment très très bien. Après, on peut très bien les faire à la maison, mais c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, un travail de titan. Parce que, étant donné que c'est une réduction, donc il suffit de faire, on va dire, un pot-au-feu. Alors, vous faites un pot-au-feu, prenez tout le bouillon et vous le faites réduire totalement jusqu'à arriver à un côté que très sirupeux. Donc c'est quand même très délicat.
Ça coûte de l'énergie, du gaz et de l'électricité.
Ça, ouais, ça coûte du temps.
Et il ne faut pas se rater.
Il ne faut pas se rater parce que quand il est vraiment en fin de réduction, on peut lui donner une amertume qui peut être aussi désagréable.
Alors moi, ce que je fais parfois quand je fais des moules marinières, là c'est la saison des moules de bouchot par exemple, le jus rendu par les moules, je le conserve, je le filtre et je le mets dans des petits bacs à glaçons au congélateur. Et ça, je peux m'en servir pour parfumer un risotto. Si je veux faire un risotto avec des coques par exemple, ça peut marcher.
La carcasse d'un poulet du dimanche, plutôt que de l'acheter, un petit peu de vin blanc, des chutes de légumes, de l'eau, on laisse réduire à consistance d'un petit verre et puis on a un super bouillon.
Et on a un beau bouillon de volaille.
Alors ils sont nombreux justement à faire les bouillons maison, comme JR et Olivier, mais ils se demandent comment le relever, le corser, parce qu'il est un petit peu fade quand il congèle comme ça. Ils le mettent dans des bacs à glaçons et après, il n'y a pas vraiment de goût quand il...
Ah, il faut y aller sur les aromates, là. Hein.
Ouais, mais je pense, Marion, qu'à la limite, j'ai envie de leur dire, mais congelez-le comme ça et vous allez après le réassaisonner vous-même quand vous le ferez décongeler.
Il faut faire très attention parce que si on sale, quand on concentre très fort, on peut aussi concentrer le sel et ça peut devenir trop salé. Donc
oui, c'est quand on utilise des bouillons de légumes, vous avez raison, il faut éviter de saler les plats après parce qu'effectivement, ils sont déjà très très salés. Une dernière question, Marion.
Oui, il y a Séverine qui voit le gomasio apparaître dans les rayons et elle se demande ce que c'est.
Ah bah c'est du sel avec des graines de sésame, tout simplement, qui apportent du croquant et qu'on peut mettre sur une viande, sur un poisson, sur des légumes, dans une salade même. Hein, Yves.
Ah, totalement, moi je trouve que c'est très très intéressant pour les gens encore là, qui ont des fois des problèmes avec le sel. C'est un bon moyen de trouver un exhausteur de goût qui va redonner, je dirais, la patate à votre plat et surtout qui va l'équilibrer sans trop saler.
Alors posez vos questions, hein. Voilà, on a répondu à pas mal de questions. Marion, on continue.
Sur le répondeur au 39-21, c'est 50 centimes la minute. Sur la page Facebook de la Table des Bons Vivants et sur Twitter, faites-nous signe.
Et voilà, et avec tout ce sel, on a de quoi assaisonner notre plat du jour qui arrivera dans un instant avec Olivia Ruiz, une belle bohémienne de légumes. Et on va choisir de bons vins. Les vins nature, sont-ils l'avenir? Eh bien, on y répond bientôt. À tout de suite.
Europe 1, la Table des Bons Vivants. Laurent Mariotte.
Vous le voyez, vous l'entendez sur Europe 1, c'est la saison des foires au vin. Alors à propos, on va s'intéresser à un vin qui séduit de plus en plus de Français, le vin nature. Sans sulfite, au plus près de la vinification originelle, le vin nature est-il l'avenir? On en débat dans un instant, mais en attendant, voici les titres du journal de Marion Sauveur. Les 2 ans de la loi alimentation, une cantine scolaire 3 étoiles et la cuisine au soleil de Marseille. Voici le menu de votre journal, Marion. Alors, bilan mitigé deux ans après la mise en place de la loi alimentation. On en a beaucoup parlé ici.
Oui, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, a estimé cette semaine que la loi va dans le bon sens. Cette loi a été mise en place pour obliger les distributeurs et les industriels à mieux rétribuer les éleveurs pour qu'ils ne vendent plus de lait ou plus de viande au-dessous de leur coût de production. Le ministre a admis que l'objectif n'est pas encore atteint, mais il faut absolument aller au bout de la loi, a-t-il affirmé.
Mais il a raison, mais c'est vrai que pour les éleveurs, on est loin du compte. Hein. Un chef 3 étoiles derrière les repas d'une cantine.
Et quel chef ? C'est Régis Marcon qui prépare le menu du midi des enfants de l'école de Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Il faut dire que son restaurant est implanté dans le village. Alors au menu, pas de repas gastronomique, mais la même nourriture qui est servie à l'ensemble du personnel du restaurant. Le chef explique même les plats aux enfants. Ils apprennent à reconnaître les produits et un atelier de cuisine devrait aussi se tenir à l'école une fois par mois. Les chanceux.
Ça, c'est une bonne nouvelle. À Marseille, un chef cuisine uniquement avec l'énergie du soleil.
Pas de gaz, pas d'électricité. Au Présage, c'est le nom du restaurant. C'est un miroir qui alimente le fourneau de cuisine. Il concentre en fait la lumière. Et ensuite, le chef Clément Flint réalise ses plats à partir de légumes et de poissons locaux. Au menu, par exemple, maquereau grillé, haricots coco et concassés de tomates. Alors, si vous voulez goûter cette cuisine solaire, rendez-vous à la manufacture collaborative ici Marseille, dans le 15e arrondissement.
Ben on mange bien et on respecte l'environnement.
Et quand il pleut, on mange froid.
C'est ça, aussi.
Plus jamais à Marseille.
Jamais.
C'est ça.
Merci Marion. Alors depuis la rentrée, vous le savez, la culture se met aussi à table. Un festival autour de l'odorat a lieu ce week-end à la Cité des Sciences. Europe 1 est partenaire d'ailleurs. Alors vous avez remarqué, hein, les sauces de poisson fermentées, les fromages forts n'ont pas le goût de ce qu'ils sentent.
Eh bien, parfois, Julien, heureusement.
Parfois heureusement. Eh bien, Julien Amat a voulu en savoir plus auprès de Roland Salès, expert en odorat. Rendez-vous autour d'une dégustation des poisses à la Cité des Sciences.
Bonjour madame.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez me dire ce à quoi ça vous fait penser quand vous sentez ce fromage ?
Ah oui, ça sent la chaussette, un petit peu comme un vieux grenier. Fin...
Est-ce que ça vous donne envie de le manger ?
Pas du tout.
Le goût, on pense que c'est essentiellement une sensation en bouche. Or, en fait, c'est l'odorat qui cause l'essentiel de la sensation gustative. Les arômes de l'aliment qui vont se dégager dans la bouche quand on mâche, ils vont remonter par l'arrière-gorge vers le nez et donc donner une odeur.
Alors dans ce cas-là, ce qui sent fort à l'extérieur doit se sentir fort aussi à l'intérieur, non ?
Alors ça sent toujours fort, mais il faut bien voir comment le cerveau traite les deux messages.
Je vous ai ramené de quoi s'amuser, je vous ai ramené un fromage bourguignon.
Oui, les poisses...
Ah ouais, il y a un appel d'air là.
Oui, là c'est franchement horrible, ça donne vraiment pas envie d'y goûter.
Vous vous moquez de moi là, avec mes yeux plissés, mais je veux vraiment que ça pique les yeux. Hein.
Alors, mais si je bouche le nez, je sens un côté qui est assez gras. Et donc à partir du moment où j'ouvre le nez, alors là, j'ai la sensation complète, qu'on appelle le goût, entre les sensations en bouche et les sensations dans le nez.
Vous m'avez limite convaincu, je vais en prendre une bouchée. Au clan, ouais. Je suis d'accord, c'est un peu plus lourd, mais... Ça tire quand même. Hein.
Et les odeurs dans le nez sont beaucoup moins fortes que quand on les sent toutes seules par le nez. C'est en fait la somme des deux canaux, olfactif et gustatif, qui sont différents et qui rentrent dans le cerveau. Et le cerveau forme une image de l'aliment qui est différente de la sensation olfactive qu'on a pu sentir avec le nez.
Eh bien, merci messieurs. Si on doit résumer, en fait, le goût rééquilibre l'odeur. C'est pour ça qu'on dit toujours aux enfants de goûter avant de dire qu'ils n'aiment pas, en fait, hein.
Oui, complètement, parce que c'est vrai que le goût peut avoir un côté qui amène beaucoup de retenue. Mais j'ai envie de dire, Laurent, moi, je trouve ça quand même merveilleux d'arriver à un moment donné à trouver l'alchimie entre les deux et ce plaisir. Une époisse qui ne sent pas serait pas une époisse.
Mais oui, et un master, pareil.
Et puis le vin, la dégustation complète d'un vin commence par son odeur et ensuite on le met en bouche. Et d'ailleurs, quand on le grume, comme on dit, c'est pour faire... mélanger de l'air et faire de la rétro-olfaction et capter les odeurs.
À la Cité des Sciences, justement, dans cette exposition, eh bien, il y aura des dégustations de vin pour pouvoir se former le palais. Et elle a bon goût, elle sent bon. Olivia Ruiz sera avec nous dans un instant.
Le
la
chocolat.
Femme chocolat se rapproche.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Alors, on a fait nos courses en vrac, nous avons croqué la fleur de sel. Eh bien, on va ouvrir quelques bouteilles maintenant. Hein. Sans sulfite, étonnant souvent au nez et au palais, le vin nature prend de plus en plus de place dans les conversations et sur les tables. Alors, est-ce que c'est un truc de bobo pour se faire remarquer ou au contraire, une soif de renouer avec le goût originel du vin? Le vin nature fait débat ce samedi, on se pose la question, le vin nature est-il l'avenir? Et pour y répondre, deux invités, je vous présente Ophélie Neyman, qui est journaliste spécialisée en vin pour le quotidien Le Monde et son magazine l'excellent M Le Mag. Bonjour Ophélie.
Bonjour Laurent.
Et de l'autre côté, Alicia Doré, vous êtes journaliste et agente en vin nature. Bonjour.
Bonjour Alicia. Laurent.
Bonjour.
Et,
Bonjour.
Et vous faites un très bon podcast aussi. Rappelez le nom de votre podcast.
Il s'appelle Au Goulot.
Au Goulot, voilà où vous rencontrez des personnalités, vous les cuisinez autour du goulot et du vin nature.
Hein, exactement.
Parce que vous êtes experte en vin nature, Alicia, et vous aussi, Ophélie, on peut le dire. On va commencer par ça, tiens. La définition du vin nature, parce qu'on entend tout et n'importe quoi.
Ah ben on commence par le plus difficile, c'est bien.
Ben oui, c'est bien, c'est bien, c'est pour se mettre en jambes.
Il n'y a pas de vraie définition, même si pendant le confinement, ça y est, la répression des fraudes de l'INAO a autorisé un logo vin méthode nature, qui n'est encore sur aucune bouteille. Mais alors c'est quoi? C'est un vin qui serait à la fois bio ou biodynamie, sans soufre et sans intrants œnologiques, c'est-à-dire qu'on ne va rien rajouter pendant la vinification, pas de sucre, pas de copeaux, pas de choses comme ça.
Alors quand on dit qu'on se rapproche du goût originel du vin, c'est vrai, c'était ça au départ le vin?
Le vin, il y a toujours eu plein de traficatages de goût. Hein. Les Romains mettaient du sel pour lui donner un goût marin, on a mis du thym, on a mis du romarin, on a toujours mis des choses dans le vin. Donc c'est difficile, le goût du vin originel, c'est l'homme qui le fait, donc ça dépend.
Pourquoi ces vins vous intéressent? Tiens, Alicia, par exemple, pourquoi vous intéressez au vin nature?
Moi, il se trouve que c'est plutôt le vin nature qui est venu à moi, puisqu'il y a encore quelques années, je ne buvais pas de vin. Et un jour, on m'a fait goûter un vin qui m'a vraiment marqué. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et je me suis renseignée, j'ai lu, j'ai rencontré des vignerons et je suis tombée dedans.
Et Ophélie Neyman, vous êtes une adepte uniquement du vin nature ou pas forcément? Vous êtes ouverte à tous les vins?
Ah pas du tout, oui, j'essaye d'être ouverte à tous les vins et je considère le vin nature comme un courant du vin, comme il y a des courants musicaux dans la musique, on a le droit de l'aimer, on a le droit de ne pas l'aimer, c'est un courant.
Yves Candebord, vous le chef bistronome, le vin nature, on le trouve sur votre table dans vos restaurants de Saint-Germain-des-Prés par exemple, c'est une façon aussi peut-être de garder un lien avec des vignerons qui sont peut-être plus exigeants que d'autres, on pourrait dire ça ou c'est trop caricatural?
Non, je ne pense pas qu'on peut dire exigeant, parce que même les gens qui font un vin en conventionnel sont aussi exigeants par rapport à leur travail. Pour moi, un vin nature, c'est un vin qui va respecter la nature et surtout un vigneron qui va accompagner la nature. Alors, je ne suis pas à 100% pour dire qu'un vin nature, c'est obligatoirement sans soufre. Ça, je trouve que c'est peut-être un excès total parce qu'on arrive à avoir des vins sans soufre qui sont imbuvables.
Et qui deviennent déviants et qui sentent le crottin, l'écurie.
Je pense que c'est le vigneron qui n'a pas de recette précise, qui chaque année, selon le climat, selon le raisin, dans la maturité du raisin, doit savoir l'accompagner pour essayer de le laisser le plus propre possible.
Alicia Doré, vous avez apporté une bouteille, alors on va déguster, expliquez-nous ce que vous avez apporté. Alors quand on le voit à l'œil déjà, c'est un vin c'est un blanc, mais il est trouble déjà.
Il est un peu trouble. Alors vu qu'on est encore en été, j'ai amené un vin qui s'appelle La Petite Robe de Jean-Yves Perron en Savoie, qui est un vignoble qui est souvent décrié, mais à tort. Et je pense que justement l'engouement pour les vins nature permet de redorer un peu le blason de ce vignoble peu connu.
Faut qu'on goûte, faut qu'on déguste alors, Olivier Pouls.
Oui, ça pour le coup, c'est un vin nature qui est plutôt bien fait. Moi, le problème que je peux avoir avec certains vins nature, c'est quand ça devient une religion et quand on se met, au nom de la défense de l'idéologie du vin nature, à accepter des défauts dans le vin qui, moi, ne me semblent pas compatibles avec ce que j'attends d'une grande bouteille. Et c'est vrai que tout le sujet, en réalité, il est pratiquement autour du soufre. Écarter le soufre totalement du vin, ça me paraît parfois un peu compliqué. Mais
celui-ci, par exemple, il est pas déviant, ce vin blanc nature.
Non, c'est très net. Hein,
c'est très net.
Moi, je trouve que c'est complètement net. Après, bon, le côté CVT, qu'il n'est pas translucide, ne me pose aucun problème. Bien au contraire, parce que je pense que ça lui garde une forme de mâche et de qualité. Moi, je le trouve très équilibré, c'est très plaisant.
Ça coûte combien, ça?
Ça coûte un petit peu cher. Ça coûte autour d'une vingtaine d'euros en général, ça dépend des années. Mais effectivement, on voit qu'il est possible de mener une démarche de viticulture et de vinification sans intrants chimiques et sans trop d'intervention à la vinification et d'avoir quelque chose de complètement buvable, voire de très très bon.
Alors là, on est sur du blanc, mais il en existe des rouges. Eh bien, on va ouvrir des rouges dans un instant. Ne bougez pas. Le vin nature est-il l'avenir? On continue d'en débattre dans un instant. On va parler conservation aussi.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Olivia Ruiz sera notre invitée dans un instant, mais avant de la recevoir, on fait le tour du goulot des vins sans sulfite. Les vins nature sont-ils l'avenir? Eh bien, on en débat avec Ophélie Neyman du Monde et Alicia Doré, journaliste et agente en vins nature. On parlait du soufre, des sulfites. Il y a une petite quand même réglementation, il y a une certaine dose qui est tolérée. Expliquez-nous ça précisément, Ophélie.
En tout cas, c'est pas sans soufre ou plein de soufre, il y a toute une gamme. Alors les vins nature, on considère que jusqu'à 30-40 mg de soufre par litre, on est quasiment sans soufre. Mais ça permet quand même de protéger le vin. Il faut savoir que les vins conventionnels, on peut aller jusqu'à 200-250 mg. Donc il y a, c'est un tel éventail qu'un tout petit peu de soufre, 20 mg, ça fait pas de mal, ça fait même du bien.
Toute la question étant de l'utilisation du soufre, à quel moment il intervient de la vinification. C'est ça qui est très compliqué à expliquer. Est-ce qu'on utilise le soufre au début, à la fin, pour protéger le vin? Et puis voilà, il y a eu à un moment aussi une certaine idée qu'il ne fallait pas en mettre du tout. Mais il faut savoir que le processus de fermentation va dégager de toute façon un peu de sulfite dans le vin. Il y en aura de toute façon un petit peu.
Et puis ce sont des vins fragiles, les vins nature, comme ils n'ont pas beaucoup de soufre et de sulfite. Effectivement, au niveau transport et conservation, il y a quand même quelques petites règles à respecter.
Alors, on a longtemps dit ça, et c'est vrai qu'on a vu des vins très très fragiles. On disait, vous ne les conservez pas au-dessus de 15 degrés, parce qu'au-dessus de 15 degrés, la fermentation repart, il s'abîme, il s'oxyde. Aujourd'hui, on a quand même des vins qui vieillissent, des vins nature qui vieillissent, parce qu'ils sont naturellement protégés, parce qu'ils ont développé lors de l'élevage une capacité à se protéger de l'oxygène et à faire avec aussi.
Il faut quand même se poser une question, c'est que si on prend les 50 plus grands domaines de France aujourd'hui de vins qui voyagent dans le monde entier, qui ont des vocations de longue garde, très peu, voire pas aujourd'hui, sont en vin nature. Parce que le soufre, si on veut garder son vin et le faire voyager, à un moment, il en faut peut-être un minimum.
Alicia Doré, allez-y.
Par contre, non, il y a énormément de vignerons nature qui exportent parfois plus de 80% de leur production à l'autre bout du monde. Donc ça prouve bien que ces vins-là peuvent voyager puisqu'ils sont consommés en plus dans des pays vraiment très très éloignés qui sont très pointilleux sur la qualité du vin.
Bon, il faut voir parfois comment ils arrivent là-bas.
Hein. Alicia, les vignerons qui l'envoient ne l'envoient pas dans des conteneurs sur bateau, c'est tout le temps des conteneurs réfrigérés.
C'est vrai.
Pas, voilà, c'est ça l'important parce que la vérité elle est là. C'est moi qui suis adepte du vin nature depuis les années 90, je suis conscient que déjà tous les vignerons qui m'envoient c'est des transports réfrigérés et moi de mon côté je me dois dans l'obligation de les conserver qu'en dessous de 14, même si on peut les faire vieillir. Mais je pense que la conservation des vins nature doit être en dessous de 14.
On les trouve où, Alicia Doré, les vins nature en France? Voilà, nos auditeurs, ils veulent acheter du vin nature. On ne les trouve pas forcément partout non plus.
Alors, on ne les trouve pas partout. On les trouve notamment chez les cavistes. Et on peut aussi les trouver en ligne. Donc, il y a plusieurs adresses de boutiques en ligne. Les Petites Caves, Pur Jus, pour en citer quelques-unes. Et je pense qu'il y en aura qui seront postées sur le site.
Juste dans votre écho, je voudrais dire que ce qui est, à mon avis, très positif dans l'idée des vins nature, c'est que ça fait réfléchir l'ensemble des vignerons sur l'utilisation du soufre. Et qu'aujourd'hui, tous les vignerons, y compris les plus conventionnels, ont une réflexion sur l'utilisation du soufre et tentent de baisser les doses. Parce que beaucoup de soufre dans le vin, c'est bobo à la tête.
Réflexion sur les pesticides aussi, parce que Yves, hein, quand on pense au domaine viticole en France, ça, allez-y.
Laurent, il y a des chiffres. Hein, il y a des chiffres. C'est, la vigne représente 4% des surfaces agricoles et pourtant elle couvre à elle seule 20% des pesticides utilisés en agriculture.
Donc voilà, si c'est on peut faire baisser déjà ça au niveau de l'environnement, c'est pas mal. Moi, j'ai un vin nature là qui s'appelle le Château de Lascaux, qui est un vin du Languedoc que j'ai trouvé aux alentours de 10 euros, qui est bio, qui est en biodynamie et qui est effectivement sans sulfite ajouté. Vous en pensez quoi? Tiens, petite dégustation, Alicia Doré, Ophélie Neyman.
Premier constat, les vins nature sont des vins assez chers en général.
Oui,
il n'y a pas de vin à 3-4 euros en nature. Hein.
C'est vrai, ça commence aux alentours de 8 euros. Ouais.
Oui, alors juste au niveau des prix, on a un guide qui s'appelle Glue Guide, c'est pas moi qui l'écris, mais qui est très bien. Ce sont que des vins à moins de 15 euros et ils vous donnent 350 adresses de cavistes qui vous proposeront du vin nature
partout
en France. Vous avez aussi l'appli Raisin pour compléter où vous pouvez trouver le caviste le plus proche de chez vous ou le vigneron le plus proche de chez vous en vin nature. Donc on trouve à peu près tout partout.
Et mon Château Lascaux, alors vous en pensez quoi?
Moi, je l'aime beaucoup.
Naturel de fruits.
Ouais. Beaucoup aussi. Ouais, super fruité, super léger, facile à boire, joyeux, vivant.
Il faut dire quelque chose aussi, c'est qu'il y a une digestibilité qui est quand même plus forte et plus importante que sur un vin conventionnel, parfois qui va être un petit peu plus lourd aussi. Si je veux m'amuser avec ça, Yves Condebord, le danger du vin nature, c'est qu'on en boit un petit peu plus, quoi. Hein,
on prend du plaisir à croquer plus souvent dans le raisin.
Je dois
reconnaître, ouais. Mais c'est quand même la qualité première d'un vin, parce qu'après on peut en parler pendant des heures. L'important, c'est quand on a le verre vide et qu'on a envie d'y revenir.
Eh ben voilà.
Sans abus, Laurent, bien sûr.
Petite question à propos des vins nature. Alors moi, en tout cas, j'en suis incapable. Mais pour vous dire la vérité, là, on est en train de goûter un vin du Languedoc. Je serais incapable à l'aveugle de vous dire si c'est un Pinot Noir d'Alsace ou alors si c'est un Bourgogne, par exemple, ou même un Côte-du-Rhône. Quoi.
C'est pour moi un peu la limite des vins nature. C'est-à-dire que ça a le goût à vin nature, ça a le goût de raisin, c'est délicieux. Mais on perd un peu la notion de terroir, j'ai l'impression.
Mais moi, j'y vois quelque chose de très intéressant. Au contraire, je trouve que ça sort un petit peu des carcans et ça permet à des gens qui ne connaissent rien nos vins d'être beaucoup moins intimidés par un langage de sommelier, un langage œnologique, etc. Et du coup, d'ouvrir des champs possibles de dégustation de vin.
Les AOC font parfois des vins un peu stéréotypés, c'est-à-dire qu'on boit toujours la même chose. Et c'est pour ça que certaines personnes qui aiment le vin nature ne reviennent plus en arrière et ne boivent plus de vin conventionnel qu'ils trouvent ennuyeux. Mais c'est vrai que parfois, on a tendance sur les vins nature, à l'inverse, à ne plus savoir où on est. On aime ou on n'aime pas ça.
C'est ça qu'il y a d'enthousiasmant avec le vin nature, c'est que même sur une même cuvée, un même millésime, aucune bouteille n'aura le même goût. Et c'est pour ça qu'on a envie de recommencer.
Eh bien, merci mesdemoiselles. Merci Alicia Doré,
merci.
Journaliste et agente en vin nature. Et merci à vous, Ophélie Neyman. On vous lit dans le magazine Aime le Monde et puis dans le monde tout court. Donc voilà, c'est important de parler de vin et goûter des vins nature, amis auditeurs. Comme ça, vous ferez votre propre avis. Mais c'est bien d'y goûter quand même et de ne pas rester sur des vieux a priori. Allez, on revient, à tout de suite. Dans un instant, on agrandit la table avec une gourmande en chocolat, Olivia Ruiz, qu'on écoute avec Strenne des pieds. Elle arrive juste après.
Je n'aimais pas beaucoup l'école. Je traînais les pieds, mes guibolles abîmées. J'explorais mon quartier. Je traînais des pieds dans mon café. Les vieux à la belote braillaient. Papi, mamie, tonton André. Toute la famille tête dans le guidon, du temps pouvait faire les cons. Les pensionnaires, les habitués, les gens de passage, surtout l'été. Joyeux bordel dans mon café. Écorché mon visage, écorché mes genoux, écorché mon Je n'aime toujours pas l'école. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. Thank you.
Olivia Ruiz sur Europe 1 espiègle et gourmande. Sur scène, elle nous embarque avec sa folie douce et son panache à l'andalouse. Raconteuse d'histoires en chansons, elle en raconte de belles dans son roman La commode tiroir de couleur. La femme chocolat est avec nous. Bonjour Olivia Ruiz.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir. Bonjour tout le monde. Bonjour Yves. Moi, je suis ravie d'être là aussi, bien sûr.
Auteur, écrivain, romancière, et bravo pour cette commode au tiroir de couleurs. Plus de 100 000 exemplaires.
Et oui, hein, c'est une incroyable surprise.
Un best-seller.
Et oui, heureusement qu'il y a une merveilleuse jeune femme qui m'a donné l'idée d'écrire et qui ensuite m'a donné de grands coups de pied aux fesses régulièrement pour que je ne lâche rien.
C'est vrai, vous aviez la flemme, comme on dit aujourd'hui.
C'est pas ce que j'appellerais de la flemme, plutôt un vertige, plutôt un truc de « mais pour qui tu te prends ?» Le costume est bien grand pour toi, là. Avec tous les livres qui m'ont transporté, c'est vrai que j'ai un peu sacralisé cet objet.
Chanteuse, danseuse, comédienne, romancière, avec ce premier roman, on peut aussi ajouter bonne cuisinière, Olivia Ruiz.
Bon, cuisinière, bonne, j'irai peut-être pas jusque-là. Je fais les choses avec amour et c'est vrai que j'ai un petit instinct. Mais ensuite, j'ai pas de savoir-faire, par contre.
L'instinct, il est très très important chez vous. On se souvient avec la Star Academy, vous avez suivi votre instinct, justement, pour poursuivre votre propre voie. On sent que vous avez du tempérament, du caractère et ça doit se retrouver dans votre cuisine. On mange quoi chez Olivia Ruiz?
Ah oui, c'est relevé. Ah oui, c'est, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais pas d'être fade, ça c'est sûr. Bah, il y a un peu de l'ail partout, quand même, disons-le. Du persil souvent, de la coriandre, beaucoup de tomates, une cuisine méditerranéenne dans l'ensemble. Après, j'aime bien aller toucher un peu à la cuisine asiatique. Je suis assez passionnée de nutrition. Du coup, c'est vrai que quand je trouve un produit qui va m'amener quelque chose d'intéressant en termes de santé, je pense en maman aussi, hein, depuis 5 ans quand je cuisine, je vais essayer de trouver une façon de le mettre. Donc par exemple, ben voilà, la sauce soja, c'est quelque chose qui est hyper bon pour la santé. Ouais. Donc je me suis un peu aventurée à des choses asiatiques, très mal sûrement, mais avec voilà, juste pour utiliser des ingrédients bien faits.
Quel est votre goût de la semaine, Olivia Ruiz? Un goût qui a marqué votre semaine?
Ben, la coriandre, justement, parce que j'ai racheté un pied de coriandre beau au supermarché et que j'ai fait une petite salade, donc voilà, et que je vais l'épuiser jusqu'à ce que les beaux jours s'en aillent et qu'il s'en aille avec.
On a un cadeau pour vous, tiens, regardez, soulevez la petite assiette qui est devant vous. C'est quelque chose qui est...
Ah, comme... des mantecados, bien sûr.
C'est
nous, on appelle ça dans le sud des estufadis. Alors, ce sont des biscuits espagnols à base d'énormément de beurre et de farine, 100% gluten, qui sont quand même très pâteux, qui sont plus supportables avec un café ou un thé que comme ça, sans rien. Mais voilà, qui sont une madeleine. Les souvenirs remontent.
Vous en parlez dans le livre, d'ailleurs, hein?
Bah oui, parce que c'est un peu le petit biscuit de Noël. Enfin, c'est un peu le biscuit de toutes les tables, quoi. C'est pas très cher. Et c'est vrai que c'est la petite pointe d'exotisme qu'on met aux cousins français quand ils viennent manger chez la famille espagnole.
Vous aimez cuisiner, vous nous l'avez dit, Olivia Ruiz. Est-ce que vous cuisinez le poisson? Est-ce que le poisson a une place à votre table?
Oui, alors j'ai un appart qui est très mal équipé en termes de hotte aspirante. Donc je suis obligée, depuis que je vis là, de m'en tenir au poisson en papillote.
Oui, au four. Oui.
Voilà. Mais je me suis vengée pendant le confinement à Narbonne-Plage, puisque j'avais un ami qui avait un ami pêcheur. Et voilà, c'était génial, le coup de fil du matin. J'ai 3 petites dorades là. Ah. Voilà.
Eh ben, on va y venir, aux
et
dorades,
au barbecue,
justement.
Du coup.
Parce que Yves Candebord, vous allez nous aider à cuisiner le poisson. C'est vrai que de nombreux auditeurs n'osent pas acheter du poisson parce qu'ils se disent tout simplement « je ne sais pas comment le cuisiner ». En dehors des pavés de cabillaud et des pavés de saumon, on se détourne un peu des pièces entières. La lotte, par exemple, la dorade ou l'aile de raie qui sont de jolis morceaux. Donc vous allez nous aider à cuisiner tout ça. On va commencer par la lotte, Yves. Hein?
Alors la lotte, c'est un peu, je dirais, un poisson qui ressemblerait... Voilà, sur la préparation à une viande, à un poulet rôti, Laurent.
Une chair très ferme, très dense.
Une chair
hein.
très ferme. Vous demandez à votre poissonnier de vous la préparer, de laisser les filets attachés à l'arête. Cette lotte, vous allez l'assaisonner, la saler, la poirer. On va la rôtir entière. Mmh. On va prendre soit une poêle, une grande poêle, soit une plaque à rôtir. On y dépose de l'huile d'olive, des aromates, du thym, du laurier, du romarin, de l'ail, à votre convenance. On fait rôtir sa lotte. On va la colorer de chaque côté. Et ça va durer à peine 2-3 minutes. Avant, vous avez allumé votre four, vous l'avez mis à température maximale. En général, un four ménager, on est à 250 degrés. Alors, une fois que vous avez coloré votre lotte dans votre plaque, vous prenez votre plaque, vous la rentrez dans votre four très chaud et vous la laissez 4 minutes.
Comme une viande, comme on ferait avec
comme
une côte de bœuf, une entrecôte.
On la saisit. c'est exactement pareil. Après, vous éteignez votre four, vous ouvrez votre porte. Important pour faire descendre la température rapidement. Quand la température est redescendue aux alentours de 50-60 degrés, vous refermez votre porte et vous laissez votre lotte reposer pendant 10 minutes.
C'est ce qu'on appelle tirer. On laisse tirer, voilà. Comme disent les chefs cuisiniers.
C'est la chaleur qui va monter l'inertie. Dans le centre, l'inertie qui va nacrer votre lotte.
C'est quelque chose que vous pourrez faire dans votre appartement parce qu'il n'y a pas de problème d'odeur en plus avec ça.
Absolument,
vous promets,
c'est
Olivier.
Quelque chose que je vais tenter dès le début de semaine vous pouvez prochaine. Ouais.
J'ai pris la lotte qui est un produit, je dirais, un peu de fête, mais on peut très bien le faire avec un carrelé bien épais.
Votre lotte, là, elle était rôtie. On peut aussi pocher les poissons. C'est le cas de l'aile de raie, par exemple.
Voilà, c'est le cas de l'aile de raie. C'est très facile. Vous faites un court bouillon. Court bouillon qui est de l'eau, une garniture aromatique, des carottes, des oignons, un peu de poireau, du thym du laurier, du sel du poivre, voire une épice qui vous convient. Vous demandez à votre poissonnier des morceaux d'aile de raie de 200 grammes qui ont été épluchés, où il a retiré la peau blanche et la peau noire. Vous faites bouillir votre court bouillon. Quand il est à grosse ébullition, vous le retirez instantanément. Vous plongez vos morceaux de raie dans votre court bouillon, vous couvrez et vous laissez hors du feu pendant 10 minutes. La température va monter tranquillement, la cuisson va être parfaite, on va avoir un poisson très nacré. Et c'est une aile de raie qu'on va accompagner d'un trait d'huile d'olive, de capre, on a un poisson poché.
Vous nous parliez de vos enfants, Olivier Ruiz, ça c'est très bien pour les enfants, il n'y a pas d'arête dans l'aile de raie par exemple.
Et c'est tellement fin,
mais qu'est-ce que c'est bon,
tellement
ça.
Bon, mais bien sûr.
Et c'est un système pour cuire le poisson poché qui peut être identique pour un morceau de poisson en filet aussi.
Un dernier poisson rapidement qu'on peut cuisiner simplement ce week-end.
Alors, un filet, je vais prendre un filet de dorade, filet poêlé. On va prendre une poêle en inox, Laurent, pas une poêle anti-adhésive. Une poêle en inox qu'on va chauffer. On va déposer au milieu de la poêle en inox une feuille de papier cuisson, voilà, de papier sulfurisé. Ouais. On prend sa dorade, le filet qui a été assaisonné de sel, de poivre. On va poser le côté peau contre le papier cuisson. Avec une cuillère, on va faire une pression de haut en bas, voilà, pour bien que la peau adhère au papier cuisson. On va laisser cuire à feu pas très fort pendant 3 minutes. Au bout de 3 minutes, vous retirez votre poêle de la chaleur, vous retournez votre poisson et vous allez le laisser tirer. C'est-à-dire que la température de la poêle va être largement suffisante pour arriver à cuire l'autre partie du poisson.
Et, oui,
et là, vous avez un poisson poêlé qui a été fait dans une poêle en inox, pas anti-adhésive, avec une cuisson parfaite.
Et bien voilà, la lotte, l'aile de raie, Olivier Ruiz a pris des notes, et puis le filet
absolument,
de dorade. Vous retrouverez toutes les références sur europe1.fr. Merci Yves Candebord. Olivia, vous restez avec nous, on va se partager un plat du jour avec vous dans un instant. Ça devrait vous plaire. J'en dis pas plus, mais ça devrait vous plaire. On revient juste après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoy. Là tout de suite, et bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire. Europe 1, il est midi. Les titres d'Europe Midi, Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. À la une du journal de la mi-journée, le retour des Gilets jaunes appelés à manifester à Paris. Deux cortèges ont été autorisés au départ de la place de la Bourse, où Jean-Marie Bigard a d'ailleurs été chahuté par plusieurs Gilets jaunes, et près de la place Vingt-Grammes. En revanche, interdiction de manifester sur les Champs-Élysées. Le préfet Didier Lallement a d'ailleurs lancé une mise en garde très claire ce matin. Il ne peut pas y avoir de chaos sur les champs, a-t-il averti. Nous verrons dans Europe Midi que certains commerçants ont d'ailleurs préféré tout simplement fermer pour éviter de faire face à des débordements. Notez que pour l'instant, 81 personnes ont été interpellées depuis ce matin dans la capitale. Nous serons à Marseille où le préfet, comme en Gironde, a jusqu'à lundi pour formuler des propositions au gouvernement pour faire face à la progression inquiétante du coronavirus. Toujours dans le journal de la mi-journée, l'appel de 76 élus pour réclamer le rapatriement de 200 enfants français retenus dans des camps en Syrie avec leur mère djihadiste. Ils font cet appel dans une lettre ouverte adressée au président de la République. À l'initiative de cet appel, le député UDI Pierre Morel-Aluissier, vous l'entendrez. Le Tour de France, 14e étape, 194 km entre Clermont-Ferrand et Lyon, et sans Romain Bardet qui a annoncé son abandon hier après une grave chute. Le temps de ce samedi, à part un peu d'instabilité dans les Alpes et la Corse, c'est grand soleil, nous dira Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Nous irons là aussi à Marseille où, je vous le disais, la situation se dégrade. Nous serons dans les services de réanimation où médecins et infirmières ne veulent pas revivre de nouvelles vagues. Vous entendrez aussi dans Tout Terrain ceux qui ne veulent pas se faire tester ou se dépister et donc s'isoler. Et puis un peu de légèreté à la fin de Tout Terrain, nous irons à la Cinémathèque qui célèbre Gérard Houry et Louis de Funès. 12h02 sur Europe 1, je vous laisse en compagnie de Laurent Mariotte et de la table des bons vivants.
Europe 1, écoutez le monde changer. Moi, je vais prendre le plat du jour.
On envoie la bohémienne pour la 14, bien chaude. On y va.
Allez, on envoie la tarte au citron à la 5, les gars, s'il vous plaît.
Europe 1.
Moi, je vais prendre la brioche perdue.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Oh oui, c'est bien ça, la brioche perdue. Merci d'être avec nous depuis 11h et soyez les bienvenus, hein, si vous venez de nous rejoindre. Des courses en vrac au vin nature, en passant par la récolte de la fleur de sel en Camargue, nous essayons de comprendre ce que nous mangeons et ce que nous buvons aussi. Et nous sommes avec Olivia Ruiz qui nous a rejoint pour partager ces jolis coups de fourchette. Vous avez du blanc, vous avez du rouge, un vin blanc nature de Savoie qu'on a goûté tout à l'heure avec Alicia Doré et Ophélie Neyman. Et là, en vin rouge, qu'est-ce que vous avez servi à Olivia, cher Olivier Pouls?
Un Corbière, un Minervois.
Alors, je
pas
vous
loin.
Ai... Non, c'était un Languedoc.
Appellation. Les Corbières et les Minervois sont dans le Languedoc.
Mais dans l'appellation plus large.
Oui.
Olivia Ruiz, vous partez sur les routes avec Bouche Cousue, un spectacle dans lequel vous allez lire et chanter à la fois. Hein. C'est bien ça?
Alors non, il y a deux projets. Il y a le projet Concert Lecture autour de la commode au tiroir de couleur, qui est sur les routes depuis une semaine. Et ensuite, il y a le spectacle Bouche Cousue, qui pour le coup est un vrai concert-spectacle, mis en scène par Jérémy Lippmann, qui a notamment fait M, ou encore Nils Arestrup dans Rouge. Donc voilà, c'est vraiment un des spectacles dont je suis la plus fière.
Première, le 1er octobre au Théâtre de Saint-Nazaire, et du 3 au 7 novembre au Théâtre des Bouffes du Nord, vous serez.
C'est ça, hein, c'est et bien en tournée ça. Ensuite, si tout va bien.
Vous êtes vous-même fille d'aubergiste en quelque sorte, on peut dire ça, presque.
Oui.
Vos parents tenaient un bar-café à la Marseillette, à côté de Carcassonne, pas loin.
Oui, à Marseillette, oui.
S'il devait rester qu'un plat tiens, de cette époque, ce serait lequel?
Le bœuf bourguignon, parce que du coup, ma grand-mère a été longtemps en cuisine. C'était un endroit, comme on voit dans les tout petits villages, où il y a hôtel, café, restaurant, bar, pompe à essence, loto, tabac. Et donc, chacun avait un petit peu son poste, mes parents, mes grands-parents et deux de mes oncles. Et ma grand-mère a été longtemps en cuisine et elle faisait un extraordinaire bœuf bourguignon, dont je me souviens bien. Mais je sais que les gens venaient surtout, les routiers, beaucoup de gens se déplaçaient les jours où elle faisait la langue de bœuf.
Sauce piquante.
J'imagine, j'ai jamais pu aller jusque-là.
Alors, on va rester dans le légume, tiens, pour notre plat du jour, et ça devrait vous plaire. On a rencontré une femme généreuse en cuisine, elle a l'âme d'une aubergiste, elle s'appelle Flora Mikula.
Oh, je l'aime.
Hein, je pense que vous la connaissez, elle a longtemps tenu l'auberge de Flora à Paris, elle est aujourd'hui chef conseil. Elle nous a préparé une bohémienne pour vous. Vous savez ce que c'est une bohémienne?
Pas du tout.
C'est une cousine de la ratatouille.
D'accord.
Avec beaucoup de légumes qui ont mijoté. Alors, il y a autant de recettes de bohémienne que de cuisinière, on va dire. Eh bien, on écoute la recette de bohémienne de Flora Mikula.
Enfin, c'est ma bohémienne. C'est, chacun s'approprie ses recettes. Hein. Je fais avec deux oignons rouges. On les coupe en deux. Et là, on va faire des vrais quartiers. Je vais mettre au moins 6 gousses d'ail. On met tout à sauter. Là, on baisse un peu pour que ça compote. Pendant qu'on va tailler le reste des légumes. Pour moi, la bohémienne, tu vois, c'est aussi tailler un peu gros pour qu'on sente vraiment toute la saveur des légumes. Je rajoute des tomates. La tomate va donner son jus, en fait, et va lier cette bohémienne. Et à part, je vais faire sauter les aubergines et que je vais rajouter, en fait, à la fin dedans. Si j'avais mis tout au même moment, ça aurait fait bouillasse, en fait. L'aubergine, elle a besoin un peu de se raidir dans l'huile d'olive, d'être saisie. Tu vois, là, ça chante, là. Voilà, nos aubergines, elles sont top, tu vois, là, elles compotent. Et là, on va les rajouter à nos tomates. J'enrobe les aubergines avec la tomate et le poivron. Voilà, la bohémienne est prête, tu vois. Là, il y a à manger pour 6 personnes, hein, au moins. Bah, je suis super contente si c'est pour Olivia Ruiz, parce que j'ai connu une bonne vivante, hein, tu vois. Bah, je pense que ça va lui plaire, Olivia.
Eh bien, comment qu'elle est bonne vivante? On va lui demander à Olivia Ruiz, alors.
Oh,
qu'est-ce
oui.
qu'elle en pense?
C'est un délice. Ah. C'est un délice, et effectivement, j'ai déjà dîné plusieurs fois à la table de Flora, et c'est quelqu'un qui a une telle générosité, un tel amour aussi du plaisir de manger, c'est une reine de la transmission.
Oui, et c'est pour moi la cuisine familiale à la perfection. À chaque fois avec Flora Mikula, elle peut vous faire des tomates farcies, elle peut vous faire une bohémienne. Je trouve qu'il y a ce côté cuisine familiale qui parle à tout le monde, mais vraiment à la perfection au niveau de la cuisson, des assaisonnements et de son petit geste, en fait.
Il y a un super équilibre dans les textures, et c'est ça qui est très compliqué. Il n'y a pas de légumes mous,
Non.
C'est pas de la bouillie, il y a de la fermeté, c'est délicieux.
Faites des bohémiennes de légumes légumes, amis auditeurs, c'est la pleine saison. On vous mettra la recette évidemment sur europe1.fr. C'est la même adresse pour retrouver le podcast de l'émission. Vous avez même un projet, je crois, avec Flora Mikoula, non?
Absolument. On est parti en week-end toutes les deux à la découverte de la truffe.
Oh, joli!
Dans la Drôme. Et on a cuisiné la truffe un peu sous toutes ses formes, toutes les deux. On a bien fait la fête, on n'a pas beaucoup dormi. Et donc, moi, du coup, j'ai commencé une chanson sur ce produit autour d'un projet auquel on collabore tous les deux.
C'est voilà. Ça. Alors, ce projet, ça s'appellerait « Chantons sous la poêle hein, », la poêle ustensile de cuisson, bien entendu. Et Yves Condebord, vous serez de la partie aussi. On va vous retrouver chanteur dans cette histoire.
Chanteur non, cuisinier sûr et un petit peu conteur.
Un petit peu conteur. Et
ça,
vous serez
chouette.
Aussi au festival Omnivore ce week-end, Yves Condebord. C'est à Paris, au Parc Floral. Et vous n'allez pas au festival Omnivore pour cuisiner, mais en quelques mots, vous y allez pour, si je puis dire, un petit peu remettre certains chefs cuisiniers à leur place.
Alors, je ne sais pas si je remettrai certains chefs cuisiniers à leur place. Je vais surtout exprimer une période de ma vie qui a été la période, je dis, de la critique. Voilà, je fais partie des cuisiniers qui ont grandi, avaient l'ère de la critique. Le journaliste gastronomique par l'excellence, je pense à Marc de Champérard, je pense sur à Jean Didier, ces vieux mammouths, et aussi malheureusement à
Claude Lebey, Sébastien Demorand.
Voilà, Claude Lebey, Sébastien Demorand qui sont partis très tôt, qui m'ont beaucoup apporté parce que je me suis beaucoup engueulé avec eux. Et je me rends compte aujourd'hui que ces engueulades m'ont servi parce qu'elles m'ont fait grandir. Et qu'aujourd'hui on est dans l'ère de la communication qui est aussi très très belle et on en a besoin. Mais j'ai un peu l'impression qu'on oublie d'écouter les gens des fois, les chefs cuisiniers, et on ferait bien de les écouter un peu plus. Et écouter peut-être un peu plus les journalistes qui ont un avis des fois différemment.
Un avis et un palais
qui est différent du nôtre, mais qui peut nous apporter tellement.
Cuisinons et débattons. Olivia Ruiz, c'est la saison des foires au vin. Alors ça vaut le coup ou pas? Eh bien on va voir ça tout de suite avec notre expert, Olivier Pouls, docteur en tire-bouchon. On se retrouve juste après ça.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
La chanteuse et romancière Olivia Ruiz est avec nous jusqu'à midi et demi. Elle plonge la fourchette dans une bohémienne. On disait que cette bohémienne ressemble bien à Flora Mikoula au niveau du tempérament
aussi.
Oui,
elle est libre, elle est exubérante, elle y va franchement et elle est simple et délicate à la fois.
Mais comme vous aussi, avec du tempérament et ce petit assaisonnement aussi qui fait votre particularité, qu'on retrouve dans cette commode au tiroir de couleurs, hein, où vous prêtez quand même 10 belles histoires, on va dire, à votre grand-mère à travers les tiroirs d'une commode qu'on va ouvrir les uns après les autres. Une belle commode de couleurs, plus de 100 000 exemplaires. C'est un best-seller, Olivia Ruiz. On est ravis que vous soyez avec nous. Comment ça se passe, Olivia Ruiz, au niveau du vin? Vous êtes sélective? Vous vous laissez conseiller par des amis? Vous faites votre cave vous-même?
Alors, mon amour pour l'Occitanie se situe tout particulièrement à cet endroit-là, parce que je fais une guerre totale à toutes les caves du 18e arrondissement pour qu'elles rentrent des Corbières, des Minervois ou même des Pics Saint-Loup, qui sont des petites merveilles à des prix un peu plus élevés. Donc, je ne consomme que du vin de chez moi. C'est ma petite pierre à l'édifice. Je ne suis pas non plus une immense buveuse. J'aime les bonnes choses, mais voilà.
Les
mais
racines.
En tout cas,
on est bien tombé aujourd'hui avec le Languedoc.
Oui.
Alors,
oui.
Hein.
Ah, oui,
on aurait pu faire
vraiment.
Une énorme faute de goût.
On aurait pu sortir un vin d'Alsace, elle serait partie. Attention.
Ah ben là, scandale.
Alors c'est la saison des foires au vin. On est envahi de catalogues, de recommandations. On s'y perd un petit peu, faut bien l'avouer. Alors vous avez 7 commandements à nous transmettre aujourd'hui, Olivier Pouls, pour nous aider. Les 7 commandements pour réussir sa foire au vin. Eh bien, on va commencer par le premier. Le catalogue en détail, tu décortiqueras, vous dites.
Eh bien oui, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le catalogue, et notamment des éléments auxquels on ne prête pas toujours très attention. Par exemple, les quantités disponibles. Normalement, quand il y a des petites quantités, ils doivent le mentionner dessus. Et quand vous voyez, par exemple, qu'il y a 48 bouteilles disponibles pour la grande surface, c'est même pas la peine de vous déplacer. En gros, il n'y en aura pas. Il faut regarder aussi, dans un catalogue, ce qui est mis en avant et ce qui est trop mis en avant parfois, ben c'est ce qu'ils ont envie de vous vendre et ce n'est pas toujours les meilleures affaires.
Deuxième commandement, les prix, tu compareras. Oui, forcément.
Ben oui, parce que les stratégies d'achat entre enseignes sont très différentes. Elles ont fait leurs achats il y a déjà plusieurs mois. Et donc, sur les mêmes vins, vous pouvez entre enseignes avoir des différences de prix assez significatives. On en a remarqué et parfois ça va de 3, 4 à 5 euros la bouteille sur des vins un petit peu chers, mais c'est significatif.
Troisième commandement, aux aurores, tu te lèveras.
Bah oui, premier arrivé, premier servi. Et c'est vrai que certaines références partent en quelques heures et il faut aller dès le début de la foire au vin pour avoir les meilleures affaires.
Le quatrième, alors oui, il est bien le quatrième aussi. Des offres trop spectaculaires, tu te méfieras.
Bah oui, je suis désolé, mais du Bordeaux à 2 euros ou du Champagne à 10 euros, franchement, ça ne peut pas être bon. Il y a un prix minimum en France, en dessous duquel on ne peut pas produire un vin de qualité et rémunérer les gens qui le font. Donc, on n'achète pas les vins à trop bas prix, ou les opérations 6 achetées, 6 offertes, où la bouteille vous revient à 1,50€, ça n'a pas de sens.
On va se faire des copains avec le cinquième commandement, des conseils du vendeur, tu te méfieras.
Malheureusement, vous savez, les sommeliers qui sont dans les foires aux vins, ils sont là, ils sont payés par les grandes enseignes, donc ils sont là pour vous vendre les vins qui sont en rayon. C'est un peu comme si vous demandiez à un chef si son poisson est frais. J'en ai jamais aucun entendu répondre que non. Donc, on goûte, on regarde les guides, on en discute avec des gens qui connaissent vraiment, mais le conseil sur place, c'est parfois un peu compliqué.
Alors, Olivia Ruiz vient de nous parler de ces corbières de cœur, hein, sixième commandement, la sélection régionale, tu regarderas?
Parce que en dehors du catalogue national qui est commun à toutes les enseignes, chaque patron de grande surface a une petite marge de manœuvre et il peut commander à des vignerons, en général de la région qu'il connaît. Et c'est souvent là-dedans, dans ce que j'appelle un peu le festival off, qu'on peut trouver les meilleures affaires.
Et le septième commandement, et bien Olivia Ruiz nous en a parlé aussi, ton caviste, point, tu n'oublieras.
Les petits commerces
de quartier.
Il n'y a pas que la GD, les amis. Alors c'est vrai qu'en ce moment, ils monopolisent un peu le devant de la scène. C'est eux qui ont lancé les foires au vin. Mais on a la chance en France d'avoir des cavistes compétents et on ne les oublie pas, surtout en ce moment.
Et on boit des Corbières, des Pics Saint-Loup.
Mais voilà, mais c'est vrai que le conseil, puis cette relation est tellement chouette avec ces commerçants de quartier. Il ne faut pas se priver de ça.
Préserver.
On en ressort grandi. Chose qui est effectivement pas du tout le cas en grande surface. Quoi.
C'est ce qui fait toute la différence. Le conseil.
Et c'est
vous
pas
retrouverez...
toujours hors de prix chez les cavistes d'ailleurs aussi.
Non, mais ça y est, ils s'y sont mis. Ils ont compris que voilà, il fallait séduire aussi une clientèle qui voulait acheter des vins qu'on puisse boire tous les jours, pas forcément de garde, à des prix bon marché, accessibles. On retrouvera les références dans la revue du Vin de France à laquelle
du
vous participez.
Du mois de septembre,
Olivier.
Spécial foire au vin, toutes les bonnes affaires.
Et ben voilà, on va se gêner. Allez, on continue de découvrir Olivia Ruiz de l'autre côté de la fourchette. Ce sera juste après ça. À tout de suite.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Allez, goûtez-moi, ne me dégoûtez pas de moi. Allez, reviens à la maison, je te ferai des crêpes aux champignons. Caille-moi les hanches, à la hache, j'ai trop mangé de chocolat.
Manger, boire, aimer, Olivia Ruiz. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on vous invite
danser,
à cette table.
Et danser, peut-être, et chanter, je rajouterais.
Oui,
moi.
Vous pouvez. Mais c'est pour ça qu'il fallait que vous soyez là autour de cette table ce samedi. Parce que
mais pour
c'est
être
très
honnête,
présent.
Laurent, je fais vraiment peu de choses en dehors des choses intimement liées à mon œuvre. Et là, mais la question n'a pas eu le temps d'être posée. Tout le monde s'est étonné que je dise absolument, je serai chez Laurent Mariotte, j'y tiens beaucoup.
Eh bien, ça nous fait plaisir, ça nous fait très plaisir. C'est quoi la recette des crêpes aux champignons que vous chantez d'ailleurs, c'est la ficelle picarde ou c'est autre chose?
Alors non, je fais pas du tout ça, je suis pas très fan des champignons de Paris, c'est plutôt c'était la référence à la crêpe industrielle pas bonne qu'on nous donnait à la cantine quand
bien
on
sûr.
Était petit parce que
la
femme
béchamel.
Qui...
avec la béchamel
c'était
bien
terrible,
grasse.
C'était terrible, mais j'ai dû en faire aussi simplement béchamel, je faisais faire hurler Yves, mais comme moi je suis grosse mangeuse, je trouve toujours des astuces pour faire les choses à plus basse calorie. Parce que j'ai besoin de quantité conséquente.
Tu as raison complètement.
Ah, mais chacun adapte sa cuisine à ses envies et ses
et
besoins.
Et du coup, j'ai une petite recette de béchamel sans beurre.
Vous la faites comment?
À base de fécule de maïs.
Fécule de maïs, ouais.
Un demi-litre de lait, 40 grammes de fécule de maïs. Et j'ajoute le beurre que pour le goût, un tout petit peu à la fin. Donc voilà.
La béchamel light, ça existe. On a appris quelque
mais
chose.
Mais ça marche, franchement. Alors, bien évidemment, c'est pas aussi bon, on peut pas se mentir, mais ça fait le job dans les lasagnes complètement, par exemple.
Et puis, c'est de la chimie, la cuisine. Donc voilà, cette fécule, elle remplace la farine. Mm-hmm. Ça marche pour ceux qui sont allergiques au gluten, en plus, votre béchamel.
Oui, bon.
La cuisine est présente dans vos chansons, on vient de l'entendre, hein, Olivia.
Incroyablement présente, oui, je m'en rends compte avec votre petit...
montage de Jean-Luc Arblade, que nous saluons, qui est un fan de la crêpe béchamel d'ailleurs, au passage. Il y a aussi dans votre dernier livre un très beau passage où votre grand-mère, après s'être absentée de son foyer, tente de reconquérir l'amour de ses proches grâce à la cuisine. C'est une belle séquence, ça.
Bah oui, elle a plus de porte d'entrée. Elle s'est absentée longtemps de la vie de son enfant et du père de son enfant. Et elle, voilà, elle a trouvé un petit trou de souris où se glisser... à travers sa cuisine, elle peut exprimer et sa culpabilité et son amour et son envie de les reconquérir.
Ma grand-mère, depuis toujours, c'est elle qui décide, elle qui nous mate, elle est comme sa cuisine. D'abord, elle te tente irrésistiblement, te surprend, puis te violente de son tempérament épicé. Et quand le repas est terminé, pourtant, c'est une saveur suave qui te reste dans la bouche, rassurante parce qu'elle te donne l'impression d'être aimée passionnément. Un joli extrait de votre livre, page 14, c'est au début, voilà, donc une grand-mère, Elle existe ou pas, cette grand-mère ?
J'ai eu deux grand-mères formidables. Une qui était une très bonne cuisinière, qui est toujours en vie, mais alors qui ne s'engage plus du tout à nous faire rêver nos papilles depuis de longues années, d'ailleurs, si elle m'écoute, pas sûr. Et l'autre, l'été, assez forte en pâtisserie, la canette aux pêches.
Canette aux pêches,
oui.
Oh, c'est bien
là,
ça.
Mais que c'était bon.
Yves-Camp Debord,
et avec, elle la faisait avec la peau hyper croustillante, bien fondant à l'intérieur. C'était un délice.
Bientôt à table. Mais pour l'instant, c'est l'heure de passer sur le grill du questionnaire des bons vivants, Olivia. Quel est le goût de votre enfance, Olivia Ruiz ?
Eh bien, c'est justement le flan aux œufs de ma grand-mère Rita. Et alors, je comptais sur toi, Yves, pour me donner l'astuce. Pourquoi, quand ma grand-mère faisait son flan aux œufs, elle avait toujours plein de petits trous dedans qui donnent cette texture si particulière. Pourquoi moi, je n'ai pas les petits trous, même quand je passe 3 heures à battre le truc pour y mettre de l'air dedans ?
Non, mais c'est pas dû, je pense, à la préparation
c'est
de
la chaleur.
Base. Non, c'est par rapport à la cuisson. Alors, j'ai envie de te dire que quand on fait un flan aux œufs qui a des trous dedans, pour nous, dans la pure tradition gastronomique française, c'est un défaut. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ton bain-marie s'est mis à bouillir et le fait que ça boue, ça fait plein de trous. Donc, il faut que tu mettes ton four plus chaud, que tu fasses bouillir.
Et pourtant, mais cette texture...
Ah, mais c'est ça, je pense que ça va être ça.
Et tellement particulière, d'accord.
Ça doit l'aérer, et quelque part aussi, ça peut te faire coaguler un peu les jaunes.
Et du coup, le caramel coule un petit peu à l'intérieur, ça fait...
Ouais, parce que le fait qu'il y a une ébullition, donc tout doit remonter.
Mais pourtant,
sur
il restait hyper compact. Avec
ça restera compact, mais il sera plein de petits trous.
Ouais, ben voilà.
Votre plus beau repas, dans le sens inoubliable, Olivia ?
Pour mes 30... quand je crois, chez Anne-Sophie Pic à Valence.
Très belle table.
Voilà, et puis c'est une anecdote rigolote. Mon amoureux de l'époque n'était pas du tout un bon mangeur. Il aime que les choses très très simples. Et puis, j'y vais quand même avec lui. Là, il fait une...
crise de foie.
Ouais, enfin, il tombe super malade. Bon, et pourtant, un moment magique et le meilleur moment, certes, le repas, un voyage unique. Et ensuite, eh bien, j'ai passé la soirée assise sur la terrasse, avec vue sur les cuisines d'Anne-Sophie, dans un silence presque d'église, où de temps en temps, on entendait juste des petits rires, à voir la chorégraphie, le ballet de danseurs, là... Enfin, vraiment, aujourd'hui, je pourrais me l'offrir à nouveau, parce que je prends la mesure du privilège que c'est de vivre un moment pareil, quoi.
Votre pire repas, Olivia Ruiz ?
Je vis sur les routes, Laurent. Donc, des pires repas, c'est un jour sur deux.
Je vois venir, c'est le sandwich triangle dans les stations-service, quand même
non,
pas.
Ça, moi, non. J'ai définitivement renoncé. Je préfère me galérer, partir avec un tupperware de la maison. Mais les salles, parfois, on a un accueil qui est exceptionnel. Et puis, quelquefois, on arrive, on a le truc en plastique, là.
Les barquettes industrielles, oui,
voilà,
bien sûr.
Et là, moi, ça, c'est le genre de choses qui me fout en l'air, quoi. Parce que je mange bien, je suis performante. Je mange pas bien, je ne le suis pas. C'est l'équation. Très simple, ben oui.
Mais évidemment.
Avis à ceux qui vont vous recevoir.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte ?
Paella ou la fideuà, parce que selon la recette, on a tout. On a les fruits de mer, on a des légumes, certains mettent des petits haricots plats, des poivrons, des oignons. On a un féculent, c'est le plat complet par excellence, et puis on voyage, quoi. Certains mettent du lapin, du
la
poulet.
La fideuà, c'est avec des vermicelles, mais c'est une très bonne réponse.
Voilà.
C'est la première fois qu'on nous répond ça.
Pas vraiment des vermicelles, hein. c'est les pâtes qu'on met dans la soupe de poisson, quelquefois. Mmh. Ouais, des macaronis plus serrés. Je sais pas comment ça s'appelle.
C'est entre le vermicelle, le spaghetti, c'est un peu plus gros.
Qui sont les invités de votre dîner idéal ?
Dans les invités de mon dîner idéal, tout le monde est en cuisine. Donc il y a Gilles Goujon, il y a Yves, il y a Michel Sarran et il y a Anne-Sophie Pic, bien évidemment. L'idée, c'est qu'on soit tous en cuisine et ensuite qu'on prenne notre pied grâce à la compète qu'on aura orchestrée entre ces 4 cadors.
C'est malin.
On
invite tous mes amis. Mais cap, alors là, cap. Et on le fait à l'auberge. À l'auberge du Vieux Puy, chez Gilles, parce que c'est
à
chez moi.
Dans les Pyrénées-Orientales.
Voilà.
Très belle adresse.
Et que je n'ai jamais eu. C'était le cadeau que je comptais m'offrir pour mes 40 ans, le 1er janvier. Et puis bah voilà, un peu les grèves, un peu le Covid. Je n'ai toujours pas eu le plaisir d'aller à cette table alors que j'ai un amour immense pour ce personnage, parce que c'est un personnage.
Et le mot de la fin, F-A-I-M.
Un plateau de fromage avec une bonne salade du jardin, je suis heureuse. Un super chocolat avec un super rouge, je suis heureuse.
Le bonheur en
cuisine. Un pan en tomate et avec un vrai bon ail de Garonne, je suis heureuse. Ouais.
Elle n'est pas difficile. Hein. C'était la femme chocolat qui s'est mise à table aujourd'hui pour nous. On était ravis de vous recevoir, Olivia
Mais
Ruiz.
Moi aussi, merci beaucoup. C'est un à bonheur. Tous les trois.
Et bravo pour ce beau roman, La commode au tiroir de couleurs, paru chez La Tesse d'Olivia Ruiz. Et puis qu'on retrouvera en tournée sur les routes avec Bouche cousue et un autre spectacle aussi. Merci Yves Condebordes.
Merci à tous.
Merci Olivier Pousse.
Eh bien, merci à vous.
Lucie Lescoureau, la rédaction en chef, Agnès Vaudin, la programmation, Julien Matt, Jean-Luc Arblade à la réalisation. Merci Marion Sauveur. On se retrouve la semaine prochaine. Nous recevrons Richard Béric, un joli coup de fourchette également. Vous le savez, ici, on aime recevoir que des gens qui aiment manger. Comme nous, c'est la même chose, le plaisir de la table. Et à ce propos, c'est le week-end. Donc faites le marché, la cuisine et le reste aussi. Dans un instant, Europe Midi avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Bon week-end, les amis.